enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ok, merci beaucoup. Bienvenue encore à chacun et chacune pour cette journée de leadership. Le but de cette journée, le Seigneur nous a parlé d'une façon très claire que cette année, c'était le temps de raffermir les pieux, raffermir, vous savez, ce passage d'Ésaïe 54 qui dit d'élargir l'espace de ta tente, mais il y a également une partie du verset qui est très précis qui dit de fortifier les pieux, fortifier ses piliers, et nous sommes convaincus, ceux qui sont en charge de différentes choses, notamment ici, de ce mouvement, que une des clés pour que les choses puissent durer sur de long terme, c'est d'avoir de bons leaders. Et c'est pour ceci que nous avions à cœur d'investir dans cette journée et d'essayer de vous offrir du matériel, des ressources et un enseignement spécial pour que vous puissiez fonctionner avec cette onction du Saint-Esprit, avec la présence de Dieu, mais en même temps aussi avec certains aspects qui ont été éprouvés par des hommes et des femmes qui ont une onction au niveau du leadership. Aujourd'hui, nous devions avoir Paul Goulet. Paul Goulet a eu un problème majeur. Son fils a été hospitalisé il y a quelques jours. Un fils de 18 ans avec un syndrome qui n'a pas vraiment de nom, qui a attaqué son système nerveux. Il s'est retrouvé en chaise roulante et entre la vie et la mort. Et c'est sûr qu'on a essayé de l'encourager à venir. Et en même temps, il me disait, Jean-Luc, je suis de tout cœur avec vous. J'ai à cœur les leaders, j'ai à cœur ceci. Mais en même temps, j'ai un combat qui est là auprès de ma famille et je veux respecter ceci. Mais apporte mes meilleures salutations. Donc j'aimerais vous apporter ces meilleures salutations. Alors vous dites, ça me fait une belle jambe. qu'est-ce qui va se passer alors aujourd'hui? Alors la première des choses, c'est on a tout fait. On était sur le point de vous réécrire parce que notre cœur, c'est d'être franc et honnête avec vous. Puis en même temps, c'était trop court. C'était il y a quelques jours. Et là, on a essayé de trouver la meilleure des solutions. Et par la grâce de Dieu, on a trouvé quelqu'un qui est du même calibre, du même profil que Paul Goulet, avec des variances, des variétés, parce que chacun est différent. Mais en plus, que je trouve très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui vient de l'Europe. C'est vrai qu'il y a des fois un petit peu une réticence avec l'aspect, avec la vision américaine. Et je trouve faux ceux qui disent « Ah, mais c'est américain, je veux pas ». Je crois que les Américains ont des choses à apprendre des Américains, comme nous, on peut leur apprendre des choses. Et ça veut pas dire que tout est bon, mais ça veut pas dire que tout est mauvais de chez eux. Par contre, eh bien, c'est vrai que notre cœur est quand même, on est en Europe et il y a des défis européens et on fonctionne avec des Européens dans la plupart du temps. Et c'est pour nous une joie d'avoir pu contacter un homme qui, depuis de nombreuses années, est un leader accompli. Il l'a prouvé avec les réalisations. Il l'a prouvé à travers son cœur aussi, notamment je pense qu'il en parlera, parce que c'est aussi le but durant cette journée, c'est pas que ce qui a été accompli qui prouve qu'on est un bon leader, c'est aussi comment on a réagi dans les périodes d'échec, où ça ne fonctionnait pas, et entre autres le cœur, on va parler beaucoup de ceci aussi aujourd'hui, de ce cœur qui est tellement important, un cœur humble et de remise en question. Et là, ce personnage qui va prendre en main cette journée, il a eu des magnifiques succès qui ont été reconnus non seulement au niveau local, mais au niveau international. Il a fondé plusieurs groupes, plusieurs réseaux. Je pense normalement aussi à des réseaux internationaux comme tels que COEF5 et puis d'autres choses que peut-être lui-même présentera. Il est lui-même aussi un pionnier sur différents projets, notamment aussi avec l'implantation d'églises, mais également de ministères ou d'associations. Je sais qu'il a aidé également et qu'il a très à cœur l'aspect du monde professionnel. Et durant ces années, avec le matériel de John Maxwell, que je vais vous parler dans quelques minutes assez rapidement, et d'autres livres, d'autres cours, d'autres choses qu'il a suivies, mais également que lui-même a développé, il a développé tout un concept avec, entre autres, ses différents matériels. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment pouvoir lui donner toute la place pour qu'il puisse nous communiquer, non pas les principes de Maxwell ou les principes de XY ou les principes de Z, mais les principes bibliques du leadership. Et c'est pour ceci, j'aimerais que l'on puisse accueillir chaleureusement un homme de Dieu qui a vraiment une onction au niveau du leadership, qui est reconnu avec un ministère apostolique. Et j'aimerais que l'on puisse accueillir chaleureusement Philippe Jauré.
Bonjour. Donc, je ne vais pas vous parler avec l'accent québécois ce matin comme l'aurait fait Paul Goulet, même si moi, je vais faire le trajet inverse. Dans quelques mois, je vais vivre au Québec, à Montréal, pendant quelques années. Donc, par la grâce de Dieu, je suis encore européen au moment du séminaire, ce qui fait que j'ai le privilège d'être invité par Jean-Luc ce matin. Ma joie est de passer ce moment avec vous, et la raison pour laquelle je vais aller à Montréal, c'est que j'ai le privilège de me joindre à une église là-bas, qui est une grande église, mais qui me recrute pour pouvoir développer le leadership dans toute la francophonie. Donc ce sera mon titre pastoral, ce sera pasteur du développement du leadership en francophonie. Et je suis vraiment heureux de commencer cela dès aujourd'hui parmi vous. Donc c'est pas la première fois, je le fais régulièrement dans plusieurs pays, je l'ai fait au Congo il y a pas si longtemps, je l'ai fait au Rwanda il y a 2 mois, j'étais à Montréal il y a quelques jours, et ce même séminaire était donné. Donc on va travailler ensemble ce matin, et le premier sujet qu'on va aborder, c'est la notion des fondations bibliques de leadership. Le deuxième, ce sera les essentiels du leadership. Et si on a le temps avant la pause du repas, on fera la vie intérieure du leader. Donc ce matin, on va pousser par les racines. Et cet après-midi, on va davantage regarder aux fruits, à la façon de faire technique, si je peux dire, de ce qu'est être un leader, de développer le leadership, que ce soit dans le domaine de l'Église, comme dans le domaine d'une entreprise, comme dans le domaine politique. Mon dernier livre concerne le domaine politique, ça, il s'appelle en sous-titre « Politique en francophonie », et il reprend les mêmes principes ici, parce que finalement, on peut les trouver et les appliquer dans chacun des domaines. Mais avant d'entrer dans toutes ces choses pratiques, j'aimerais qu'on puisse commencer par regarder donc les fondations bibliques du leadership, notre première session ce matin. Seigneur, merci d'envoyer ta parole, de nous guérir chaque fois qu'un mensonge sort de nos pensées, et que la vérité est plantée et qu'elle fleurit en nous. Nous sommes affranchis. Merci pour ta vérité ce matin. Que ta grâce, ta joie se répandent au nom de Jésus. Amen. Alors donc, les fondations bibliques du leadership. Il s'agit pour moi, j'aime beaucoup traiter ce thème du leadership, mais il s'agit pour moi de décider une fois pour toutes que ce thème est enraciné dans l'Écriture, et que ce n'est pas une mode passagère. On a l'habitude dans le corps de Christ, dans l'Église, de commencer souvent à suivre toutes les modes qui passent. Donc moi j'aime beaucoup lire John Maxwell, j'aime beaucoup étudier le leadership, mais pour tout vous dire, ayant été pasteur à l'âge de 21 ans, j'ai rapidement dû apprendre des choses du leadership, rapidement dû demander des conseils, dû étudier. Et pour moi, la question du leadership ne se situe pas dans la bénédiction qui vient. Il y a eu Toronto, il y a eu Pensacola, et puis maintenant il y aurait John Maxwell. Et si vous êtes dans le coup, si vous étudiez John Maxwell, c'est comme ça que vous allez vivre dans l'actualité de Dieu, dans l'esprit du réveil. Alors, sachons une chose, on parle beaucoup de John Maxwell ces dernières années, tant mieux, mais continuons à étudier John Maxwell même quand on n'en parlera plus, et au-delà de John Maxwell, continuons à étudier les principes bibliques du leadership, parce que nous avons absolument besoin de cela pour développer nos vies et nos églises. Donc, ce que je veux voir, c'est que c'est davantage qu'une mode passagère, que c'est une réalité de l'Écriture. Tout d'abord, Dieu a créé l'être humain pour être un leader. Les premières paroles que Dieu donne à l'être humain sont des paroles de leadership, un mandat de direction. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Donc, leadership, homme, femme, si jamais c'est besoin de le dire. Chaque fois que je dirai le mot homme, j'embrasse toutes les femmes. Donc, Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez. » Ce mot « dominer » ici est un mandat de leadership. Nous sommes faits par nature pour être des leaders. Toutefois, Dieu ajoute dans Genèse 2,15 qu'il place l'être humain dans le jardin pour le garder et le cultiver. Ce qui fait que dès le départ, l'être humain est appelé à exercer un leadership sous leadership lui-même. Ce qui fait que nous sommes constitués, dans notre constitution même, nous sommes faits pour être des leaders. Bien entendu, on ne peut pas être leader sur tout et partout, parce que ce serait une tyrannie, mais quelque part, nous sommes leaders et nous pouvons développer ce domaine-là de leadership dans notre caractère, dans notre vie, dans notre façon d'aborder la vie. Et c'est pleinement la volonté de Dieu. Je crois que si une personne ne développe pas sa capacité de leadership, elle vit une vie amoindrie par rapport à ce que Dieu souhaitait pour elle. Le psaume 8 nous dit, tu as donné à l'être humain, qu'est-ce que l'homme? Ça c'est une grande question, hein. David l'a posée avant que les existentialistes le fassent. Qu'est-ce que l'homme? Big question. Et il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça. C'est grand ou c'est petit de peu inférieur à Dieu? Hein? C'est grand, mais pour certains, ils insistent sur le mot inférieur. Et ça leur donne un complexe d'infériorité. Je suis juste inférieur à Dieu. Mais si tu savais qu'est-ce que c'est grand d'être inférieur à Dieu? C'est extrêmement grand, mais c'est inférieur quand même. Eh bien, là, on a toute l'image, tout l'état d'esprit du leadership chrétien, du leadership inspiré de Dieu. Grand et pourtant inférieur à Dieu. C'est exactement comme cela que Dieu nous veut et nous a voulu. Un leader donc sous autorité, ça c'est pleinement la volonté du Seigneur. Alors certains vont dire, ok, on est tout à fait d'accord qu'un leader, que Adam a été reconnu comme leader, que l'être humain a été créé leader au commencement, mais est-ce que ça continue de la même façon après la chute? Parce que tout le monde connaît l'histoire, Adam a commis cette trahison, comme Lucifer avait commis cette trahison dans le ciel. Est-ce que il existe encore le leadership après la chute et la corruption du pouvoir? Eh bien, c'est vrai que si Lucifer a souillé son pouvoir, donc son leadership au ciel, si Adam a souillé son leadership sur terre, est-ce que pour ça l'intention de Dieu aurait changé? Est-ce que pour ça l'intention de Dieu aurait changé? Certains voudraient souligner, puisque le pouvoir a été corrompu, Dieu est maintenant du côté des opprimés, des pauvres, des gens dépouillés de tout pouvoir, etc. Et nous avons commencé à fausser l'intention de Dieu, le rêve de Dieu, c'est-à-dire le dessein éternel de Dieu, son intention avant la fondation du monde. Eh bien, c'est pour ça que peu à peu l'Église, qui a développé cette mentalité qui n'est pas foncièrement biblique, a commencé à dépouiller les Églises des personnes que Dieu avait voulu mandater comme des leaders. Et on a vraiment surveillé que surtout les leaders perdent un certain pouvoir. Et nous avons une conception dans le monde chrétien qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas biblique. La crainte du pouvoir corrompu nous amène à nier le don de leadership. Et c'est pourquoi je crois que dans ces temps où Dieu restaure beaucoup de choses, je me réjouis de la restauration de la dimension du leadership dans chacune de nos vies. Et si nous regardons l'Écriture, même après la chute, l'intention de Dieu n'a pas changé. À chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose dans l'histoire, il a toujours cherché des leaders. Quand il a voulu faire un monde nouveau après la chute, il a trouvé un leader qui était d'accord de recevoir une portion du rêve de Dieu. Il a trouvé Noé, par qui il a pu dire, j'aimerais tout recommencer avec toi et une famille. Et Dieu, voulant accomplir son dessein sur la terre, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à saisir une portion de son rêve et à tisser toute sa vie autour de cette portion du rêve de Dieu. Et c'est ce qu'il a trouvé avec Noé. Quand il a voulu lier son projet sur terre par une alliance avec les hommes de tous les peuples, une alliance, une promesse, il a trouvé Abraham. Et il a dit, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et Abraham a dit, d'accord, je marche. Ben marche alors justement, et il est parti. Va-t'en pour un pays dont tu ne connais pas encore la destinée. Il n'avait pas à ce moment-là Via Michelin et Map quelque chose, etc. Il fallait qu'il parte dans l'inconnu, mais il avait saisi une portion du rêve de Dieu et il a décidé de tisser toute sa vie autour de la portion du rêve de Dieu. Quand Dieu a voulu fonder un peuple qui serait le sien, il a trouvé Jacob. Quand Dieu a voulu préfigurer son fils rejeté et retrouvant tous ses frères pour les restaurer dans la dignité, il a trouvé Joseph. Et il a dit, j'aimerais vous donner un film. Mais attention, c'est un film de science-fiction. Quelque chose qui va s'accomplir dans quelques milliers d'années. Mais si vous êtes attentif à ça, quand mon fils va venir, vous allez vous rappeler de l'histoire et vous allez le reconnaître. Et Joseph a dit, oh, je vois le film. Et il a dit, dans mon casting, Joseph, je t'ai choisi. Et Joseph a dit, d'accord, je vais tisser toute ma vie autour du casting que tu as fait. Quand Dieu a voulu accomplir quelque chose, il a toujours cherché le cœur de quelqu'un qui est prêt à tisser sa vie autour de la portion du rêve de Dieu. Quand son peuple était opprimé par les ennemis et qu'il voulait les délivrer, il a trouvé Moïse, qu'il a utilisé pour le libérer de l'oppression de l'Égypte. Quand il a voulu faire entrer son peuple dans le pays promis et répartir la terre, il a trouvé Josué comme leader. Quand son peuple était opprimé ensuite sur la terre d'Israël, il a trouvé des libérateurs qu'il envoyait comme des leaders à qui il confiait ce rêve de libérer le peuple de Dieu. Et on voit Déborah et Gédéon et tant d'autres. Quand le peuple de Dieu s'est éloigné de la foi et de la relation avec Dieu, et qu'il voulait le faire passer à une autre période de l'histoire, Dieu cherchait. Il a mis du temps, il n'arrivait pas à trouver, mais un jour il a trouvé un petit garçon qui s'appelait Samuel, et qui a dit, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute !» Et il était enfant, adolescent, qui grandissait, et il a tissé toute sa vie autour de la parole que Dieu lui a confiée. Dieu lui a chuchoté quelque chose. Tu sais, la religion, j'en ai marre. Et j'aimerais bien commencer quelque chose d'autre. Mais pour ça, il faut que quelqu'un entende ma parole et la dise dans tout mon peuple et prépare, tu vas préparer un roi qui sera selon mon cœur. Et le petit Samuel entendait ça, il a dit, chiche Seigneur, je le fais. Et il ne laissait jamais tomber à terre une parole de Dieu. Chaque fois qu'une parole venait, il tissait sa vie autour. Ça, c'est des leaders. Et je pourrais continuer en nous parlant de David qui a été l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu a voulu bâtir un temple, il a utilisé un leader nommé Salomon. Quand il a eu besoin de reconstruire Jérusalem, il a utilisé des leaders comme Zorobabel, Esdras, Néhémie, etc. Quand les rois s'éloignaient des principes de la parole de Dieu, qu'ils égaraient le pays, ça n'empêchait jamais Dieu de continuer à chercher des rois selon son cœur, des leaders qu'il allait envoyer pour accomplir son projet sur la terre. Donc, résumé de ceci, ce n'est pas parce qu'il y a eu de mauvais leaders qu'il faudrait annuler l'intention de Dieu, qui est d'agir en collaboration avec des humains, prêts à conduire le projet de Dieu, prêts à prendre un risque de tisser toute leur vie autour de la portion du rêve de Dieu qu'ils ont reçu. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Pourquoi est-ce que nous pourrions croire aujourd'hui que si le pouvoir, le leadership, on pourrait dire, spirituel, céleste comme terrestre, a été corrompu, pourquoi aujourd'hui nous pourrions dire que le pouvoir a été racheté? Le pouvoir a été racheté parce que, simplement, la capacité d'exercer un pouvoir ayant été entachée par le péché, ça c'est un fait, on a essayé d'avoir des moyens humains, nous, pour racheter le pouvoir. Alors, dans le monde démocratique, on crée des contre-pouvoirs. Et on se dit, puisque le pouvoir est corrompu et souillé, on cherche, et l'intention est saine, elle est bonne. On ne veut pas une tyrannie, on ne veut pas un pouvoir souillé, donc on va trouver des moyens pour essayer de limiter les dégâts. Et on crée des contre-pouvoirs. C'est une des façons. L'autre moyen que l'on choisit, c'est de créer des pouvoirs en alternance. Par exemple, dans beaucoup de... Moi, je suis pasteur depuis 25 ans, et dans beaucoup de dénominations, ce que l'on fait, on joue aux chaises musicales avec les pasteurs. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre de postes, et toutes les quelques années, ça tourne, on change. Et celui qui n'en a pas, il sera à la retraite, stagiaire, itinérant, enfin, on ne sait pas, mais ça tourne. Et simplement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Par crainte que si quelqu'un reste trop longtemps à un endroit, il va avoir tout le pouvoir sur tout le monde, etc. L'intention est louable. Mais ces deux mesures-là dont je viens de parler, le contre-pouvoir et des leaders de remplacement, créent plus de luttes de pouvoir et de problèmes que de solutions. Et surtout, ça ne tient pas compte des dons. Prenez cette mesure de remplacement des leaders. Et on le trouve dans certaines démocraties, on le trouve même dans certaines entreprises où le président, le patron de l'entreprise change tous les 2 ans. Ça peut être une bonne mesure, mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans le monde pastoral quand on fait cela? Vous avez certains pasteurs qui ont reçu un don pour allumer un feu. Première année, ils mettent des étincelles. Deuxième année, ça prend feu. Troisième année, le feu de Dieu brûle partout. Quatrième année, tout a brûlé. Il n'y a plus rien. Cinquième année, c'est juste des corps calcinés qui résistent encore un peu et on les met en poudre la cinquième année. Vous avez d'autres personnes qui sont des personnes de long terme. La première année, ils sont un peu timides. La deuxième année, on commence à voir un peu leurs valeurs, se dévoilent tranquillement. Et il leur faut 5 ans pour acquérir la confiance de tout le monde. Mais la sixième année, ils ont gagné le cœur de tout le monde. Et là, ils peuvent donner un projet et les gens diront, ton projet, peu importe, ton cœur nous a gagnés. On te suivra, quel que soit ton projet, parce que tu as mis 5 ans à gagner nos cœurs, mais maintenant on est de ton côté de façon inconditionnelle. Pourquoi? C'est leur personnalité, c'est leur don. Il y a des leaders qui sont faits pour du long terme, il y a des leaders qui sont faits pour du court terme. Et quand on fait ce truc de tous les 5 ans, tous les 7 ans, on change, on ne tient pas compte. On a fait une mesure du prêt-à-porter. Tout le monde la même chose. Mais nous ne sommes pas des leaders dans le prêt-à-porter, nous sommes dans le temps du sur-mesure. Et Dieu nous voit comme des gens sur-mesure, pas comme des gens dans le prêt-à-porter. C'est pourquoi ces mesures-là ne sont pas souvent efficaces. Alors, quelle est face à ces moyens humains la solution de Dieu? La solution de Dieu est totalement différente. Jésus est venu pour racheter la nature du pouvoir elle-même. C'est pourquoi il va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Quand Jésus est venu, il s'est soumis au pouvoir, toutes les sortes de pouvoirs possibles. Il s'est soumis au pouvoir militaire de son temps. Il vit sur une terre occupée et les soldats romains pouvaient demander à n'importe qui « Prends mon sac et tu le portes pendant 1 mile, pendant 1,5 km. Prends mon sac, tu le portes. » Et il devait le faire. Jésus s'est soumis. Jésus s'est soumis au pouvoir civil. Il dit à Pilate dans Jean 19, 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Mais Jésus reconnaît le pouvoir, le leadership de Pilate. Le pouvoir familial, Luc 2, 52, il nous dit « Il leur était soumis » en parlant de Marie et Joseph. Le pouvoir religieux, Jésus s'est soumis au pouvoir religieux. Quand? À chaque fois, pas à chaque fois, mais bien souvent, quand il guérissait quelqu'un publiquement, il disait à cette personne, va trouver les autorités religieuses afin qu'elles puissent constater ta guérison comme il est écrit dans la loi de Moïse. Jésus n'a pas envoyé paître ces gens-là. L'esprit religieux, bien sûr, Jésus résistait à cela. Mais il respectait, il se soumettait à tous les pouvoirs que l'on pouvait trouver dans la cité humaine. Jésus s'est soumis même au pouvoir économique. Il a payé les taxes, même les taxes injustes sur le peuple. Il a même vu le pouvoir satanique agissant sur les foules en colère, remplies de haine, de meurtre quand il s'est rendu à la croix. Et à la croix, il s'est livré au pouvoir des ténèbres qui étaient ligués contre lui. Comme il le dit dans Luc 22, 53, « Maintenant, c'est l'heure des ténèbres. Et maintenant, le Fils de l'homme sera livré. » Et on voit même qu'il se livre à ce moment-là. Mais c'est pour cela qu'il a pu dépouiller les autorités et les dominations. C'est pour cela qu'il a pu reprendre la clé de la mort et du séjour des morts quand il était dans le séjour des morts. C'est pour cela qu'il a ouvert les portes du tombeau. C'est pour cela qu'il est monté qu'il a pu monter au ciel, traverser les cieux, les purifier de la rébellion de Lucifer qui datait depuis si longtemps. Mais il a pu purifier le ciel, expulser Satan hors du ciel jusque dans les lieux célestes et s'asseoir à la droite de la majesté divine et qu'il a pu dire en revenant vers ses disciples, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel, à l'effet de toutes les nations des disciples. La solution de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Tout est accompli. Il a non seulement accompli notre salut, mais il a racheté tout pouvoir pour l'être humain. Désormais, il n'y aura plus qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tous les pouvoirs visibles et invisibles sont ligués contre lui à ce moment-là. Mais à ce moment-là, s'ils avaient su, ces esprits, qu'en crucifiant le Seigneur de gloire, ils se dépouillaient. Et Mel Gibson saisit qu'un monde ancien est en train de disparaître. C'est pourquoi il monte comme une larme qui descend des yeux de Dieu pour faire le deuil sur la première humanité qu'il a finie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dès ce moment-là, tous les pouvoirs sur la terre sont ébranlés. Les pouvoirs militaires sont ébranlés. Les pouvoirs civils avec Pilate sont ébranlés. Les pouvoirs religieux sont complètement ébranlés et vaincus. On pleure sur tous les pouvoirs qui existaient dans la première création, la première humanité. Mais les choses anciennes sont passées. Une nouvelle création est en train de naître. Et maintenant, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. À ce moment-là, tous les pouvoirs de l'ancienne création déchue ont été vaincus les uns après les autres. La nature même du pouvoir a été rachetée. Christ a pris le pouvoir corrompu sur lui. Romains 8, 3 nous dit qu'il est venu dans un corps semblable à un corps humain, un corps du péché. C'est comme si Dieu a jeté la première humanité, la première création déchue, pas seulement humanité, mais céleste et humaine, dans la personne de Jésus. Il l'a jeté au séjour des morts, mais 3 jours après, l'Esprit de Dieu est venu. Et celui qui était saint et parfaitement pur a été ressuscité. Et c'est pourquoi il va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est pourquoi il va dire que Jésus-Christ, qui lui-même était existant en forme de Dieu, qui s'est dépouillé jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix, lui, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est leader à la gloire de Dieu le Père. Il est le roi des rois, il est le leader des leaders. Et si nous parlons du leadership ce matin, nous parlons de celui-ci, ce leadership-là qui change tout. La nature même du pouvoir a été rachetée. Nous ne sommes plus dans des luttes de pouvoir. Nous sommes simplement dans une ouverture à celui qui est Seigneur, celui dont la nature du pouvoir est pure, saine, pleine de service, de grâce, celui qui relève les humains. Et le même esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, quand il est à l'œuvre en nous, va ramener non seulement nos vies personnelles, mais la vie de ceux qui nous côtoient, de la mort jusqu'à la vie, va relever les autres dans l'humanité. À quoi est-ce qu'on reconnaît un grand homme? Un grand homme n'est pas quelqu'un devant qui vous vous sentez petit. Un grand homme est quelqu'un par qui vous grandissez. Eh bien, Christ est celui qui nous fait grandir. C'est pour ça qu'il est leader des leaders et roi des rois. Et c'est pour ça qu'il sème au-dedans de nous son même mandat de leadership, son même cœur de leader par qui les autres peuvent grandir. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même devenir enfant de Dieu et d'être restauré dans un pouvoir divin. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La nouvelle naissance est un équipement de pouvoir, autrement dit une restauration même du leadership qui a été comme tué, empoisonné par le péché. C'est pourquoi il est notre gloire, il relève notre tête et faire ce pas de dire oui à Jésus, c'est être grandi au-dedans de nous. C'est le Seigneur qui nous fait marcher la tête haute, la tête levée. C'est pourquoi c'est magnifique ce qui vient de se passer. Jésus-Christ, 1 Pierre 3:21, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu, à qui les anges, les autorités, les puissances célestes sont soumis. À partir du moment où Jésus a racheté la nature même du pouvoir, donc du leadership, le leadership ne va plus être tourné vers les mêmes priorités, vers la même mentalité, il va être exercé avec une mentalité différente. C'est-à-dire, c'est un leadership qui est tourné vers la volonté du Père. Ce n'est pas un leadership égoïste pour que je puisse bénéficier. Ce n'est pas un leadership tourné vers les désirs du peuple avec la démagogie, essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est un mauvais leadership d'essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est ce que Pilate a fait. C'est pour ça que Jésus a été crucifié. Si Pilate avait été fidèle à sa conscience, il ne l'aurait pas fait. Ce leadership-là est corrompu, mais le leadership racheté, son but est la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous n'êtes pas un bon leader quand tout le monde vous applaudit. Vous n'êtes pas un bon leader. Quelqu'un a dit être un leader, c'est comme être un chef d'orchestre. Il faut savoir tourner le dos à la foule. Et c'est vrai. Parce que quand tu es un leader, ce qui compte, c'est pas de te faire plaisir à toi-même et c'est pas de faire plaisir aux autres, c'est d'être sûr d'être en train de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi le leader, et on en parlera, doit avoir une relation, chercher une relation avec Dieu, une vie intérieure si profonde, parce que le véritable leadership est orienté vers la gloire de Dieu, vers le service des autres ensuite. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Un leadership qui fait grandir les autres et en fait des leaders. Un grand homme est un homme avec qui ou par qui on se voit grandir. À partir de ce moment, nous sommes toujours dans les fondations bibliques, on a parlé de l'œuvre de Jésus. Maintenant, est-ce que cette notion de leadership, est-ce que c'est présent dans le Nouveau Testament? Oui et absolument. Nous entendons parler souvent des dons spirituels, des ministères. Alors, on a l'habitude de dire les ministères sont ceux d'Éphésiens 4:11, les dons spirituels ceux de 1 Corinthiens 12, etc. Mais on oublie certaines listes. Et par exemple, dans 1 Corinthiens 12:28, comme dans Romains 12:8, il est parlé d'un don que parfois nous ignorons, ou je ne sais pas pourquoi nous l'avons ignoré si longtemps, qui est le don de diriger. Le don de diriger. Romains 12:8, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui dirige le fasse avec application. With diligence, avec application. Avec application, avec zèle, avec tout ce qu'il peut faire, avec excellence. Celui qui dirige le fasse avec empressement. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul parle de ce don, donc 1 Corinthiens 12:28. Ce que Dieu a disposé dans l'Église sont, premièrement, les apôtres, puis les prophètes, les hommes chargés de l'enseignement. Viennent ensuite les dons de miracles, de guérison, d'assistance, de direction. Et ce don de direction est un don qui est totalement biblique, mais que nous avons ignoré. Nous avons développé les dons de prophétie, nous avons développé certains dons, guérison, etc. Mais nous avons trop souvent ignoré que le don de diriger existe. Alors si quelqu'un a le don de diriger, bien il faut simplement le libérer dans le don de diriger. Et sinon, nous allons dépouiller nos églises des cadeaux que Dieu veut leur faire pour qu'elles se développent comme Dieu veut qu'elles se développent. Nous allons dépouiller, et je parle particulièrement pour l'église parce que je crois c'est malheureux, mais il y a un seul endroit où on a du mal à accepter les leaders, c'est l'église. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui est à l'initiative de cela, et la parole de Dieu elle-même le dit. Je cite d'autres versions ici. Puis il y a ceux qui ont les dons de guérison, la Bible de Jérusalem, d'assistance, de gouvernement, la version Semeur. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison des malades, l'aide, la direction d'Église. C'est pourquoi prenons ces textes qui suivent, 1 Thessaloniciens 5:12 et Hébreux 13:17. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent pour... leader et dirigeant, c'est le même mot, c'est juste la langue qui est différente. Leader, c'est l'expression anglaise, mais ça, c'est exactement la même chose, c'est la notion de dirigeant. Donc ceux qui vous dirigent sont vos leaders. Obéissez à vos dirigeants, obéissez à vos leaders, car ils devront rendre compte, etc., pour qu'il y ait une harmonie dans l'Église. Si quelqu'un a le don de diriger, laissez-le diriger. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui doit tout faire. Ça veut dire qu'il doit exprimer, demander un chef de compagnie, on dit un PDG en Suisse aussi. Oui. Ah, donc, demandez à un PDG s'il fait tout. Non, normalement, il donne les directions et ensuite, d'autres personnes développent leur leadership pour les ventes, la gestion, l'administration, etc. Alors, nous sommes devant un dilemme. Vous voyez? Être humble ou être puissant? On ne sait pas. Ça, c'est un jeune homme. Il était fiancé et puis sa maman aimait qu'il soit costaud, donc il a fait la musculation. Mais sa fiancée disait, j'aime ton côté fragile. Donc finalement, il voulait plaire aux deux. Et voilà comment on finit quand on veut plaire à tout le monde. Hein. Donc, on est devant un dilemme. Vous n'avez jamais vu votre pasteur torse nu? Vous n'avez jamais vu? Parce que, probablement, la plupart d'entre nous qui sommes pasteurs, nous sommes continuellement dans ce dilemme. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, le psaume 68, et en même temps on nous dit, attention, il faut être humble, celui qui va être le premier doit être le serviteur de tous, ce qui fait qu'on développe une espèce de schizophrénie qui fait que, voilà, notre âme ressemble à ça. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on soit réellement réconciliés pour avoir une image un tout petit peu plus harmonieuse que, bon, on peut toujours le cacher sous des pulls, mais quand même, à la plage, ça se voit. Donc, je crois qu'il y a eu des réactions aux abus. Et on a une réticence particulièrement dans nos pays occidentaux. On a souligné les abus du clergé depuis la Réforme, mais encore plus pour nous depuis la Révolution française et la déchristianisation de l'Occident. Après la guerre mondiale, les dictatures, Hitler, Mussolini, Franco, etc., on a développé un sentiment hostile envers l'autorité, une méfiance, et quand on a ajouté les dictateurs comme Ceausescu, etc., et puis les ayatollahs qui sont apparus un peu plus tard, ben on a vraiment développé chez nous une allergie à tout ce qui serait un leader plus fort, et donc associé au théorisme, la dynamique des groupes, on a mis l'accent sur les modèles de leaders effacés, donc petits muscles, hein, petits bras. Voilà, petit bras. Leader, petit bras, surtout qu'il soit effacé. Vous n'avez jamais entendu ça? Le plus beau pasteur, c'est celui qu'on ne voit pas. D'accord? C'est pareil dans l'avion. Le plus beau pilote, tu ne sais pas qu'il est dans l'avion. Et tout le monde est insécurisé, n'est-ce pas? Moi, j'ai un ami pilote qui a fait ça un jour. Il est arrivé sans se mettre son habit de pilote. Il a dit, il s'est assis dans les sièges, puis au bout d'un moment, il a dit, j'en ai marre d'attendre, je pilote l'avion. Si vous aviez vu la panique à bord, hein? On a envie de savoir que celui qui dirige a la compétence pour diriger. Mais dans l'église, on est prêt à braire n'importe quoi. Braire, c'est une prophétie donnée par un âne. Hein? On est prêt à braire n'importe quoi du moment qu'on dit un leader complètement... Le meilleur leader, c'est celui que tu ne vois pas. Tu ne le vois pas une fois qu'il est parti. Et quand il est parti, ça veut dire qu'il a mis un autre leader bien en place, que ce soit identifié qui est le pilote dans l'avion. Donc, on a eu ces modèles-là, et je crois qu'on a développé une allergie qui nous a conduit aujourd'hui à quelque chose de grave. George Barna, qui est un statisticien américain, spécialement dans la sociologie et dans le monde religieux, après une enquête auprès de milliers de pasteurs, je crois que c'est des centaines de milliers, il dit ceci, seulement 6% des pasteurs principaux reconnaissent avoir le don de leadership. 6%! Ça veut dire 94% des gars qui dirigent une église ne devraient pas le faire. Et ils sont où ceux qui devraient? Ils sont partis là où leur don de leadership peut s'exercer. Et nous avons dépouillé nos églises aujourd'hui en Europe. On s'étonne de la faiblesse de l'église en Europe. Mais c'est normal. On a mis tous nos potentiels de croissance et de direction en dehors de l'Église. Et c'est pourquoi je bénis Dieu qu'en ce moment, ils soient en train d'insuffler parmi nous le désir de revenir à comprendre son intention en ce qui concerne le leadership. Donc, face à ces abus, Jésus nous propose un modèle qui n'est ni le leader tyran, ni le leader effacé. Il nous propose le leader serviteur comme lui-même l'a été. L'état d'esprit est l'humilité. Mais l'humilité ne doit pas paralyser l'exercice d'autorité, parce que l'Écriture nous dit « l'humilité précède la gloire ». Dans Philippiens 2, le modèle de Jésus, « Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un homme, il est devenu serviteur et même obéissant, et obéissant jusqu'à la mort de la croix ». Ça, c'est le dépouillement. Si tu prêches ça, t'as que la moitié de l'histoire. Et on a tellement prêché cette dimension du dépouillement par crainte et par réaction de tous ces abus dans l'Église et dans nos sociétés occidentales, on a prêché le dépouillement. Et c'est juste. Mais quelle est la conséquence du dépouillement? Comment continue ce verset? Jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et après? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une conséquence. Chaque fois que tu t'humilies, il y a une conséquence. Ne t'humilie pas si tu veux pas grandir. Parce que l'humilité précède la gloire. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est une loi. C'est pourquoi, si tu t'humilies, Dieu va t'élever. Si tu veux pas être élevé, surtout, ne t'humilie jamais. Reste sur ton petit piédestal, il n'y a que là que tu resteras petit. C'est vrai. Il n'y a que le plus petit que tu peux être, c'est un petit humain orgueilleux, rempli de toi-même. Alors là, tu seras sur un petit piédestal, tu seras tout content, tu diras, j'ai 20 cm de plus que les autres. Mais fais attention, parce que si tu descends de ton piédestal et que tu t'humilies, tu vas rebondir jusqu'au ciel. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et tu vas vivre au-dessus de tes moyens, par les moyens de Dieu. Tu vas vivre dans l'élévation que Dieu va te donner. Et ça, c'est la conséquence de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Le service précède l'autorité. C'est comme cela dans l'Écriture. C'est pourquoi, quand il y a un leader qui sert, le service précède l'autorité. Dans notre équipe de ministère, dans le sud-ouest de la France, où j'étais pendant 15 ans, 16 ans, un jeune pasteur est arrivé, il était pasteur dans une autre dénomination, puis il a donné sa démission là, il est en paix, il est parti, mais il sentait que c'était pas son monde. Et puis il nous a rejoints. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, il s'appelle Jean-Marc. Jean-Marc disait toujours, si tu veux Philippe, je peux t'aider pour ça. Alors, je disais, oui, bien sûr, merci beaucoup. Puis, chaque fois, une autre chose, Jean-Marc disait, bon, ben, je peux le faire. Et il se positionnait toujours comme serviteur, serviteur, serviteur. J'ai dit, lui, il est en train juste de se préparer un capital de leadership. Parce que chaque fois que quelqu'un dit, oui, je peux servir. Oui, je peux servir. Et servir dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est lui qui est en autorité sur l'ensemble des églises qui sont là dans le sud-ouest de la France et une famille d'églises dans lesquelles Dieu l'a élevé, Dieu le bénit et fait de lui une source de bénédiction. Comment son autorité a commencé? Une lutte de pouvoir dans les couloirs? Non. Le service. Et quand quelqu'un dit j'accepte de servir, attention, la conséquence du service c'est le leadership. C'est ça le modèle de Jésus. Si tu sers, attention, tu vas devenir leader. Si tu veux pas devenir leader, sers pas. Parce qu'il y a toujours des conséquences. Donc nous ne pouvons pas paralyser l'exercice de l'autorité. Si tu es humble, attention, tu vas avoir de la gloire. Fais gaffe, c'est dangereux d'être humble. Parce que si, c'est vrai, si l'humilité est ton idole, la meilleure façon de la quitter, c'est de la fréquenter. C'est vrai. Mais le jour où tu la fréquentes, certains ne supportent pas ce divorce. Oh, je l'aimais trop, je veux pas la gloire. Non, je veux pas. Alors, arrête d'être humble, s'il te plaît. Parce que si jamais tu es humble, la conséquence, c'est la gloire. Mais je vous assure, on en sourit ce matin, mais c'est une puissante vérité chrétienne. C'est la puissance de la résurrection qui se tient ici. Dans le service, la conséquence, c'est l'autorité. Et la conséquence de l'humilité, c'est la gloire. Alors, une définition. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Le leadership est une capacité à exercer une influence sur les motivations des autres, de façon à obtenir une adhésion de cœur et un engagement. On va le redire. Le leadership, c'est une capacité à exercer une influence. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une influence, le leadership. Une influence. Le pouvoir viendra que si les autres m'accordent pouvoir. On a autorité que là où nous sommes autorisés. Donc, j'ai autorité sur les personnes qui m'autorisent à exercer l'autorité sur eux parce que elles ont pu reconnaître un don de leadership en moi par lequel elles vont grandir. Donc, elles disent, j'aimerais bien que tu puisses exercer le leadership dans ma vie, ça va mettre une valeur ajoutée, ça va libérer des choses. Et là, j'ai autorité. Là, on parle du pouvoir. Mais le leadership, dans sa définition, ce n'est pas le pouvoir, c'est une influence. C'est une influence, une capacité à exercer une influence sur les motivations des autres, donc sur leur cœur, de façon à obtenir une adhésion de cœur et un engagement. Exemple biblique, Néhémie arrive, il commence à parler de ce que Dieu a mis dans son cœur et de ce autour de quoi il va tisser sa vie, et tout le monde répond, levons-nous et bâtissons. Parce qu'il a exercé une influence sur leur motivation de façon à obtenir une adhésion de leur cœur et un engagement. Cela se fait en dépeignant une situation telle qu'elle est et telle qu'elle peut devenir si chacun se met en mouvement selon les indications données, selon ses dons. Cela se fait en dépeignant une situation telle qu'elle est. Voilà, nous sommes, regardez le malheureux état où nous sommes, disait Néhémie. Les murs sont détruits, les portes sont consumées par le feu. Voyez dans quel état nous sommes. Mais il y a quelque chose dans mon cœur. Dieu a placé une portion de son rêve en moi. Et il commence à décrire. Regardez, on va reconstruire la muraille. Dans quelques mois, Jérusalem sera rebâtie. On pourra enseigner nos enfants selon nos propres lois. On pourra avoir notre propre maison. On va retrouver notre identité nationale. Et tout le monde est en train de vibrer dans les entrailles et y répondre. Levons-nous et bâtissons. Ça, c'est la tâche de ce que fait un leader. Pour terminer juste avant la pause, sauf s'il y a 5 minutes de questions. La différence entre un patron ou un leader. Le patron contraint les hommes, le leader les conduit. Le patron dépend du pouvoir, le leader dépend de la motivation. C'est très différent. Le patron inspire la peur, le leader inspire l'enthousiasme. Encore une fois, c'est différent. Le patron sait ce qu'il faut faire, le leader montre comment le faire. Le patron dit « allez-y », le leader dit « allons-y ». Mais ça change tout, moi je vous assure, J'avais deux profs de vous dites gymnastique ou dites oui. Deux profs de gymnastique, un des deux disait sauter, saut en hauteur. On sautait mais on n'avait pas de bons résultats. L'autre sautait toujours avant nous et disait à vous de jouer maintenant. Et quand on faisait derrière lui, on était obligé de se surpasser parce que simplement quelqu'un était avec nous. Un leader dit allons-y. L'homme qui veut conduire l'orchestre doit tourner le dos à la foule. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une belle chose d'avoir des capacités, mais avoir la capacité de trouver des capacités en d'autres est le véritable test du leadership. Et ce dont nous allons parler, c'est cela. Le leader est comme un coach qui arrive à voir la capacité des autres. Tu n'es pas leader juste pour exercer ton don, mais un leader est quelqu'un qui discerne les capacités des autres et qui les libère dans leurs capacités. Ainsi, Moody a dit, c'est mieux de former 10 hommes que de faire le travail de 10 hommes, mais c'est plus difficile. Je ne sais pas si vous avez 2-3 questions avant qu'on fasse la pause. C'était juste la première session de Fondation Biblique et on va commencer à entrer dans les choses beaucoup plus pratiques, personnelles et plus intéressantes dans la session suivante. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais il fallait quand même remettre le cadre juste pour dire que c'est biblique ce dont on parle et ce n'est pas juste une mode à la John Maxwell après la bénédiction.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.